Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mets Vous Face. Nous avons souvent évoqué dans cette émission les bienfaits de la nature sur notre santé physique et psychique. Marcher sur un chemin des douaniers en bord de mer, prendre un bain de forêt, le fameux Shirinyuku des Japonais, battre la campagne, admirer la poésie d'un bocage au coucher du soleil. Mais pourquoi le spectacle de la nature nous émerveille-t-il avec autant de force? Pourquoi un paysage provoque dans notre cœur une grande palette de sentiments, plénitude, euphorie ou encore mélancolie? Notre invité Alexandre Lacroix nous expliquera pourquoi notre sensibilité aux beautés naturelles est constitutive de notre humanité, pourquoi il ne faut pas laisser nos sens s'émousser face à ce spectacle mystérieux, pourquoi il est dangereux de s'éloigner de la nature, ce bien précieux que notre modernité détruit à vue d'œil. Mes complices aujourd'hui dans l'émission, Guy Métodicino et Eric Livio de L'Express. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour.
Vous dirigez la rédaction de Philosophie Magazine et vous publiez chez Alary Éditions un très beau livre, Devant la beauté de la nature. Vous vous demandez pourquoi nous ressentons tant d'émotions face au spectacle de la nature. Comment est venue cette interrogation ?
Oh, tout est parti d'une expérience toute simple que je raconte d'ailleurs au début du livre. J'étais en Grèce, dans une île méridionale de la Grèce, Santorin, hors saison, parce qu'en saison haute c'est un enfer touristique, mais là il y avait peu de gens, dans un café qui s'appelle le Sunset Café. Quand un café s'appelle comme ça, c'est normalement un bar à touristes, c'est aussi un lieu d'où on peut voir le crépuscule avec un beau point de vue. Santorin, c'est une île de formation volcanique, donc il y a des espèces de falaises de roches volcaniques dont on peut voir la mer avec une véritable hauteur. Donc le coucher de soleil, c'est une dramaturgie, c'est-à-dire des rouges, des jaunes, et puis à la fin il y a cette espèce de compte à rebours très particulier du disque du soleil qui disparaît derrière la ligne d'horizon petit à petit, et on suivait ça depuis la terrasse. On était 20-30, on suivait ça, et tout d'un coup le disque, vraiment le dernier point lumineux, comme un petit clou lumineux comme ça, disparaît derrière l'horizon, tout devient noir et les gens applaudissent. Et là, je me suis dit, tiens, philosophiquement, il se passe quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on applaudit au juste? Quand on applaudit au théâtre, je comprends, hein, on applaudit les acteurs. Quand on est ému par une peinture, je comprends aussi Michel-Ange, on admire sa virtuosité, puis on admire aussi l'émotion, la vision de l'humanité, des corps qui nous fait passer. Mais en fait, dans le monde de l'art, il y a une conversation entre humains. Donc on comprend que c'est qu'elle soit chargée d'émotion, cette conversation. Mais devant un paysage, qu'est-ce qu'on...
Vous voyez des touristes muets d'admiration. La nature imposait à tous le silence.
Oui, alors cette expérience du tourisme, je la rappelle aussi parce que je crois que elle est importante. Ça signifie que quand on a du temps et de l'argent, ce sont deux ressources rares hein, dans notre société. On dépense ce temps et cet argent en général pour se porter au devant de beaux paysages. J'ai parlé de la Grèce, j'aurais pu parler de la forêt, j'aurais pu parler de la montagne, j'aurais pu parler de tous ces lieux du monde que nous avons envie de voir dès que nous quittons nos lieux de travail. Et donc, ce sentiment esthétique, cette attirance esthétique pour la nature, c'est pas du tout quelque chose d'élitiste, c'est quelque chose d'incroyablement répandu. Hein. Je connais peu de gens qui achètent des toiles de peinture dans les galeries. Presque tous les gens que je connais, à un moment, s'offrent un voyage où ils vont voir la mer, la montagne, voilà. Et donc, la question, c'est de savoir pourquoi nous trouvons la nature belle. Parce que on comprend très bien pourquoi on a un rapport utilitaire à la nature, instrumentale à la nature. Elle nous fournit à manger, à boire, elle nous fournit de l'énergie, des matières premières. Mais en fait, ce rapport esthétique, d'où il vient? Qu'est-ce qu'on admire en elle? Pourquoi ce rapport désintéressé à la nature? Je dirais que pendant longtemps, la question s'est pas tellement posée parce qu'on a considéré que la nature était elle-même une œuvre d'art, un artefact, une création divine en fait. Donc la plus grande œuvre d'art créée par un être omnipotent, omniscient, Dieu. Mais si vous enlevez cette référence à Dieu, le mystère devient s'épaissit en fait. C'est-à-dire que Dieu était la garantie dans une relation un peu triangulaire entre le créateur, la créature, c'est-à-dire nous, et la création, c'est-à-dire la nature, qui avait des rapports d'harmonie, de proportion. Et donc, si vous enlevez cette référence à Dieu, tout d'un coup, la nature devient un mystère, son appel également. Et je dirais qu'un athée, un sceptique, un agnostique, la meilleure chose à faire du point de vue philosophique, ou l'épreuve suprême, et la plus importante, c'est de le placer devant un coucher de soleil superbe, devant la mer, n'importe où, en Normandie, où vous voulez, et de lui dire, bon alors maintenant, Explique-moi ça.
Contempler la nature permet de mettre de côté nos préoccupations et conflits intérieurs. J'ai commencé à me promener à ton âge, tout simplement parce que la nature semblait absorber le poison qui était en moi. C'est ce que dit un personnage de Dalva, de Jim Harrison, à l'héroïne adolescente de ce roman.
Oui, c'est une très belle phrase. Il y a peu de soucis, de préoccupations qui résistent longtemps à une immersion dans la nature. Je crois que c'est dû aussi au fait que la simple vue, par exemple, d'un ciel étoilé, par la dimension de ce ciel étoilé, le nombre d'étoiles, l'infini qui s'ouvre à nous, vient à un effet moral et psychologique presque immédiat. C'est-à-dire que ça vient relativiser nos petits soucis. Ça provoque un changement d'échelle, en fait. On s'aperçoit qu'on court après des lièvres, mais que ces lièvres sont peut-être des leurs ou qui ne sont pas si importants. On s'aperçoit que, voilà, il y a une vieille tante qui nous a dit quelque chose de désagréable, mais c'est pas si important que ça. Quand on est face au ciel étoilé, il se produit un événement métaphysique quasiment qui dépasse de loin ces petits soucis.
Et vous le dites bien dans votre ouvrage, la beauté de la nature nous permet de nous guérir du brouillage, de la friture urbaine.
Oui. Je crois que le désir de campagne est d'autant plus urgent qu'on vit en ville. Pour tout vous dire, moi, après mes études, j'ai été ce qu'on appelle un néo-rural. Je ne suis pas rentré dans la vie active, je suis parti vivre à la campagne, 7 ans. Je fais partie des gens qui ont besoin des paysages. Et donc je suis parti vivre dans le Mâconnais, dans les collines, dans les forêts. C'était merveilleux, il y avait de la neige en hiver, longtemps, il faisait froid. Je suis revenu à Paris pour créer Philosophy Magazine, mais avec toujours une difficulté d'adaptation au quotidien et ce besoin permanent de retrouver des émotions naturelles. Alors je pense qu'on peut quand même en trouver en ville. Il faut savoir les saisir. C'est-à-dire le moment où en ville on approche de la Seine, par exemple, ou on approche de la rivière, quelle que soit la ville, c'est toujours un moment agréable.
Et vous dites d'ailleurs que la rencontre avec la beauté naturelle n'est possible qu'au prix d'un regard sélectif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Ah oui, ça veut dire que si on veut attendre, en fait, pour s'émerveiller de la beauté de la nature, d'être à Santorin ou d'être dans l'Atlas marocain, on va attendre longtemps. C'est-à-dire que, et puis ça coûte cher. Alors qu'en fait, l'expérience de la beauté de la nature ou l'ouverture à une admiration esthétique pour la nature peut se vivre n'importe où. Non seulement le soleil se couche aussi à Aubervilliers, il y a de très beaux ciels, surtout d'ailleurs à la Toussaint, sous nos latitudes, en ce moment en fait. Mais en ville, il y a des occasions à saisir. Je dirais le vent sur le visage. Mais il y a par exemple un universel. On sait que les êtres humains partout, quand une averse tombe brutalement, relève la tête 15 secondes à peu près. C'est-à-dire quand il y a une averse brutale de. Voilà. Donc il y a ces moments à saisir. Ce qui est embêtant, c'est quand on est sans cesse rivé à son ordinateur, sans cesse dans ce brouillage, cette friture qu'on évoquait, et qu'on n'a plus la liberté d'esprit ou d'attention pour apprécier ces moments-là.
Alors, vos premières expériences avec la beauté de la nature vous marquent profondément. Je pense à vos vacances à la ville-dieu du Clain, à une dizaine de kilomètres de Poitiers. Une région, a priori, vous le dites, sans attrait. Et pourtant.
Ben, c'est une région, le bocage a été un peu ravagé par les céréaliers qui ont abattu les haies. C'est une région où si vous passez en voiture, d'abord c'est plat, ce qui est jamais très agréable à l'œil. Et puis c'est plat et c'est du maïs ou des céréales à perte de vue. Il y a beaucoup de clôtures, il n'y a plus de haies, mais il y a des clôtures qui rendent les promenades difficiles dans les forêts. J'ai grandi là, j'y ai passé toutes les vacances, toute mon enfance systématiquement, avec un père qui aimait les marches. Mais là aussi, c'est comme ce que je disais sur le fait de savoir se saisir de la beauté là où elle n'est pas. Il y a des recoins, hein. C'est-à-dire il y a dans le paysage des replis, des creux un peu secrets, un lieu par exemple qui s'appelle la fosse aux chats. Alors c'est la fosse aux chats, vous imaginez à quelle destination ce petit plan d'eau dans la forêt était destiné. Mais cette fosse aux chats, dans le bois des Cartes, c'est un petit lieu moussu, verdâtre, un peu vénéneux. Et puis il y a de très belles choses à faire, comme par exemple aller se promener la nuit dans les bois, dans les forêts, et laisser battre son cœur. Et après, philosophiquement, on peut en parler aussi, parce que j'étais très très ému de trouver chez un romantique américain, Emerson, un moment où il dit « je traversais un champ sous la lune de nuit et j'ai senti mon cœur battre plus fort, j'étais émerveillé ». Alors vous avez la citation exacte.
Non, j'ai pas la citation exacte. J'allais vous citer une auditrice qui nous dit le privilège de l'âge, c'est d'avoir du temps pour regarder le paysage à chaque instant. Je suis émerveillé par le ciel en Normandie, près de la mer. Le lever, le coucher de soleil sont particulièrement grandioses. Je suis devenue contemplative. Et puis Stéphanie nous dit prendre quelques minutes par jour pour m'arrêter contempler, c'est une absolue nécessité pour ma santé psychique après un burn-out. Cela me permet de me sentir appartenir à quelque chose qui me dépasse. C'est le sens même de la vie.
Ah oui, je rejoins complètement les deux témoignages. Sur la question de l'âge, ce qui m'apparaît à moi, c'est que, au fond, de quoi peut-on tirer une forme de consolation par rapport à la mort ? Désolé, je vais parler de choses graves, mais de quoi ? De l'espérance en une vie éternelle. Il faut quand même avoir une foi très solidement chevillée au corps, hein, pour ne pas redouter au moment de l'agonie qu'il n'y ait que du noir derrière. Donc, non, je pense que de ce monde-ci, on doit tirer des consolations. Il est difficile de trouver la consolation dans le seul plaisir, parce que dans la jouissance, il y a une sorte d'éclipse de la conscience ou de la raison. Par contre, il me semble que rien ne nous met plus en harmonie avec notre condition en fait finie que le spectacle de la nature, parce que lui aussi, je dirais qu'il a ses cycles, et que quand on regarde le passage des saisons, quand on assiste à un coucher de soleil qui est comme une préfiguration de la mort, on comprend en fait que nous appartenons à ces cycles du vivant, à ces cycles des saisons, et il y a quelque chose d'apaisant là-dedans.
Guillemette Audicino.
Moi, ce qui m'intéresse à la fois dans, on parlait du ciel, et puis on parlait de cette attention aux petits détails qui peuvent même se trouver en ville. Ce que je trouve assez fascinant, c'est que la nature, elle nous plonge à la fois dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, et que les deux sont fascinants. C'est-à-dire, regarder le ciel, effectivement, un ciel normand, les nuages, on peut regarder les nuages pendant des heures. C'est absolument incroyable. Avec des enfants, en plus, on joue à la forme qu'ont les nuages, mais en même temps, tout le monde a été ému quand, à une table de restaurant, pourtant en pleine ville, un petit moineau vient se poser sur la chaise d'à côté, et on peut rester des plombes à regarder cet oiseau qui essaye de nous picorer une frite. Donc il y a vraiment ça, c'est-à-dire en fait l'émerveillement, il peut être très grand et très contemplatif, ou il peut être soudain. Ça peut être une surprise de la nature.
Est-ce que ça va dans votre sens, le message d'Antoine qui nous dit j'aime ce spectacle à la fois gigantesque et microscopique, et j'aime les odeurs et les bruits de la nature. Alexandre Lacroix, sur ce que vient de nous dire Guillemette Audicino.
Oui, le mystère en fait de la beauté de la nature s'épaissit quand on songe à cette chose simple mais qui est tout à fait valable mais vertigineuse, c'est que la nature est belle à toutes les échelles. C'est-à-dire que dans l'aile d'une libellule, si vous la regardez au microscope, vous allez trouver la verrière de, vous allez retrouver la verrière
d'une cathédrale,
la verrière d'une cathédrale, la rosace de Notre-Dame de Paris. Donc vous allez être ébloui. Et mais également du côté de l'infiniment grand, si vous regardez des photos prises par Hubble, si vous regardez au télescope les anneaux de Saturne, pour prendre un spectacle plus simple. Eh bien, c'est très beau aussi. Si vous regardez la Terre vue depuis la Lune, c'est beau aussi.
Ça laisse. Je suis jamais allé encore.
Non, mais on a vu les photos. Mais ça laisse entendre une chose, c'est que la nature est belle dans des dimensions qui ne sont pas celles de notre corps, qui ne sont pas celles de l'évolution de l'espèce humaine et d'Homo sapiens, et que donc le spectacle de la nature nous émerveille dans toutes ces dimensions.
Qu'est-ce qu'on manque à se couper du contact avec la nature, avec ce spectacle ? Qu'est-ce qu'on manque ?
Alors, individuellement, je pense que c'est le meilleur moyen de se diriger vers une forme de sécheresse, d'épuisement, de burn-out, surtout si on travaille en bureau, surtout si on est en ville, surtout si on travaille en flux tendu. Donc il y a vraiment un risque d'épuisement à ne pas quitter le temps social, c'est-à-dire la course, pour se ressourcer, ce qui me paraît d'ailleurs une très bonne expression, auprès des paysages. Mais collectivement, on se met en danger. C'est-à-dire que l'humanité, parce qu'elle s'éloigne de la nature, depuis 2008, la majorité de l'humanité vit en ville. Donc, depuis 2008, la majorité de l'humanité est urbaine. En s'éloignant de la nature, on l'aime moins. Et on est peut-être moins sensible aussi aux arguments des écolos, qu'on trouve un peu bizarres. Or ça, on sait aujourd'hui que c'est un désormais un péril collectif.
Éric Ribio.
Oui, c'est vrai qu'il y a une beauté objective, on pourrait dire, de la nature. Moi, quand je vois la mer, étant breton, c'est souvent un peu comme ça, il y a quelque chose qui me frappe, mais il y a aussi une beauté subjective qui est nourrie par les souvenirs qu'on peut avoir, une certaine mythologie. Je me souviens de quand je me suis retrouvé à Monument de Vallée, par exemple, en dehors de la beauté elle-même, du spectacle étonnant et imposant de ce lieu, il y a aussi tous des souvenirs qui revenaient du cinéma, de la culture. Et ça, c'est on joue constamment de ces deux phénomènes, non ?
Oui, en fait, c'est une hypothèse que je développe dans le livre. C'est l'idée que peut-être un certain nombre de philosophes américains ont défendu cette hypothèse, que c'était la culture qui nous aimait la nature.
Et on s'intéresse au spectacle de la nature qui nous émerveille en compagnie du journaliste et philosophe Alexandre Lacroix.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations, but not good. Good vibrations, but not excitations, but not good. Good vibrations, but not excitations.
Boys, good vibrations.
J'adore me foutre à poil à la campagne, j'adore ça.
Grand bien vous fasse.
Surtout l'été quand il pleut, la pluie est chaude et je peux me rouler dans l'herbe.
Sur France Inter.
Formidable.
Et on s'intéresse au spectacle de la nature qui nous émerveille en compagnie du journaliste et philosophe Alexandre Lacroix.
Ce que c'est haut, merde ! Ce que c'est haut ! Oh les cons avec leurs montagnes !
Youhou! On sent les rois du monde! j'en peux plus, merde. Où ils sont, ces connards? Et dire que c'est moi qui leur porte leur casse-dalle, en plus. Je suis vraiment le roi des cons. Est-ce que c'est où, putain?
T'as qu'à boire moins de bière.
Voilà le casse-croûte, il est lourd, hein.
Je ne vous ai pas compté dans le casse-croûte, Michou. Je me suis dit qu'après votre indigestion d'hier soir, une petite diète vous ferait du bien.
Ah oui, une petite diète?
Oui, une petite diète.
T'as même pas regardé le paysage. T'as vu comme c'est beau? Mais qu'est-ce qui te prend, Michou?
Rien, rien.
Tu pleures?
Non, non, ça va passer.
C'est la diète qui te fait pleurer?
Non, non, c'est le paysage. Ça me fait penser à la femme de mon frère. Faut que j'aille la voir.
Un extrait de La crise de Colin Serrault. Alexandre Lacroix, vous publiez Devant la beauté de la nature. Alors, j'apprends en lisant votre ouvrage que nos préférences pour certains paysages sont très anciennes et universelles.
Oui, en fait, il y a deux chercheurs en psychologie évolutionniste, hein,
John Falk et John Balling.
Voilà, aux États-Unis, qui ont fait l'hypothèse que Homo sapiens ayant évolué pendant les 300 000 ans de son histoire dans des milieux écologiques auxquels il s'est adapté, eh bien, c'était peut-être de là que venait notre relation esthétique à la nature. Alors, si c'est le cas, c'est-à-dire si nos préférences esthétiques pour certains types de paysages sont inscrites dans les gènes de notre espèce, ça peut se vérifier expérimentalement.
Alors, ils ont réuni, ces deux chercheurs, une série de 5 photos représentant des milieux naturels différents, sans aucun animal. Ouais. Forêt tropicale, désert, savane, forêt de conifères, forêt de feuillus. Ils ont montré ces photos à 548 personnes réparties en plusieurs groupes, ouais, en plusieurs groupes d'âge. Ouais. Que nous disent ces recherches?
Eh bien, et en plus, cette recherche a été refaite dans plein de pays. Donc, elle est très convergente. Le résultat, c'est que jusqu'à l'âge de 15 ans et même de 30 ans, disons, la savane domine dans tous les groupes, dans tous les milieux sociaux aux États-Unis. En Scandinavie, en Indonésie. Oui, la savane. C'est la savane, le biome, pour parler comme un écologue parle, préféré d'Homo sapiens, des êtres humains. Donc c'est ce qu'on appelle, en psychologie évolutionniste, l'hypothèse de la savane.
Pour notre... Alors, petite précision sur le mot savane, hein, qui peut prêter à confusion. Quand on pense à la savane, on pense à la savane africaine. Dans son sens scientifique, la savane désigne un mélange d'herbes et d'arbres.
Oui, c'est-à-dire que c'est en savane, et en Afrique, et dans l'Est de l'Afrique, qu'il y a le plus de savanes, mais il y a des savanes ailleurs. Alors, si vous voulez, ces tests ont été refaits partout, systématiquement, et ils n'ont jamais été démentis, cette préférence innée pour les savanes.
Pourquoi?
Eh bien, alors pourquoi? Évidemment, c'est frappant pour l'imaginaire. On peut se dire, mais Homo sapiens vient de là. Donc, il y a une explication comme ça de type imaginaire. On peut aussi avoir un autre type d'explication, c'est que la savane, son paysage a une espèce de grammaire qui réunit tous les éléments qui plaisent à l'être humain. C'est-à-dire, vous pouvez voir loin, vous pouvez vous aplatir dans l'herbe, donc vous pouvez vous cacher. Voir loin, vous pouvez voir venir un prédateur. Il y a des arbres, mais ils sont bas, ce sont des arbres fruitiers. Il y a en général des nuages, ce qui signifie qu'il y a de l'eau. Il y a en général des grands animaux dans les savanes. Il y a des bancs de sable. Il y a des rochers. Donc des rochers, ça veut dire peut-être qu'on peut aussi s'abriter pour la nuit. Et donc, il y a de l'ombre par endroit. Et donc, il y a tout ce qu'il faut.
Et ce qui est fou, c'est qu'on retrouve l'esprit de la savane là où on ne l'attend pas. Sur un terrain de golf, au jardin du Luxembourg, à Paris.
Alors voilà, les auteurs ont fait leurs expériences à la fin des années 70, et en 2010, ils ont réécrit un nouvel article pour dire, bah voilà, ça fait 30 ans qu'on teste notre hypothèse de la savane, elle a tenu, et regardez, il y a mieux encore, quand des êtres humains ont un petit bout de terrain et qu'ils peuvent le façonner, mais c'est aussi le jardin de vos grands-parents, si vos grands-parents ont un jardin, c'est-à-dire un parc en ville, un golf. Quand vous avez la possibilité, vous redistribuez les éléments de la savane. Des arbres bas, des arbres fruitiers, des fleurs, il y a des fleurs dans les savanes, de l'herbe, alors ce sera du gazon, de la pelouse, mais ce sera pas de l'herbe haute, mais enfin ce sera de l'herbe, un rocher, un peu de sable, un plan d'eau, là vous avez le jardin parfait, une savane.
Alors la nature peut nous émerveiller pour deux grandes raisons, parce que c'est beau ou parce que c'est sublime. Vous nous expliquez la différence
Oui, alors en fait la meilleure...
D'un côté la pulsion de vie, de l'autre côté la pulsion de mort.
Alors la meilleure manière de parler de cette différence, ça se trouve dans un ouvrage d'un philosophe anglais, Edmund Burke, qui a publié Les Considérations sur le beau et le sublime en 1757. C'est véritablement un best-seller. C'est la première fois que un philosophe s'empare d'un sujet, on va dire, profane à ce point-là. Donc un énorme best-seller. Et il est très en avance sur Freud. Quand on lit attentivement ce livre, il relie en fait le beau à la vie. La saison du beau, c'est le printemps. Les fleurs sont belles. La jeune fille est belle. Les collines vallonnées sont belles. La matière matinée est belle, etc. Et puis alors, le sublime, c'est ce qui met en jeu la mort. Partout où il y a de l'ombre, où il y a des ténèbres, la tempête, l'orage, l'éruption volcanique, les ombres obliques du soir, partout où quelque chose comme l'ombre de la mort et la peur s'étend sur le paysage, mais en même temps compose un spectacle saisissant, on est dans le sublime pour Burke.
Guillemette de Sino.
Bah oui, ça me fait penser forcément à la littérature, mais aussi à la peinture romantique. Mmh. Les grands romantiques, en fait, dans leur description de la nature, ne décrivent pas, ne peignent pas ou n'écrivent pas sur le beau. Ils écrivent sur le sublime. Ils écrivent sur ce moment où on est au bord de la falaise, sur le moment où le ciel se couvre, ce moment où la vague s'agite. Mmh. Donc on est toujours effectivement dans la mélancolie et au bord de la tragédie, en fait.
Bien sûr. Cette distinction de Burke va avoir un immense impact, mais il faut voir que les romantiques, ils arrivent à un moment très particulier où il y a un déclin, disons, de l'explication religieuse du monde qui est due à la progression des Lumières. Donc, ils arrivent après le XVIIIe siècle, les romantiques. Et qu'est-ce qu'ils vont chercher dans les forêts? Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans la nature, dans les montagnes? En fait, à peu près le même genre d'émotion et de communion qu'on allait autrefois chercher au temple, si on était protestant, ou à l'église, si on était catholique. C'est-à-dire qu'ils vont chercher du recueillement, ils vont chercher le rapport avec une sorte de transcendance. On voit en fait que les romantiques ont translaté ou transporté l'ensemble des émotions religieuses dans un registre qui m'enchante, moi, parce qu'il est profane et panthéiste, qui est celui de la nature.
David nous dit « La nature m'apporte un sentiment de plénitude. Je ressens un profond respect pour elle. Mon espace naturel favori sont les grandes forêts nordiques et la faune qui les habite. Isabelle, la nature me nourrit, m'émerveille, tous mes sens sont en éveil. J'adore y aller la nuit, comme vous, hein, Alexandre Lacroix, ouais. Avec ma frontale. Je me sens vivante, en lien et si respectueuse de cette grandeur. Elle me relaxe, cette nature me dynamise, me recentre, c'est un besoin quotidien. » Et puis une internaute nous dit « Depuis mon enfance, je me promène dans la campagne au crépuscule, encore comme vous, Alexandre Lacroix, pour favoriser ces moments d'intense émotion où j'aurai la chance d'observer un chevreuil, hérisson, d'entendre des chouettes hulottes. »
Oui. Oui, c'est la rencontre avec l'animal sauvage aujourd'hui nous enchante. Elle nous enchante aussi parce qu'elle est rare. Enfin, c'est à bon droit qu'on est enchanté. C'est-à-dire que nous sommes les contemporains d'une gigantesque extinction animale des animaux sauvages. Le risque serait qu'il n'y ait quasiment plus que des animaux domestiqués ou des animaux dans des zoos. Et donc, quand on est heureux de voir un chevreuil, on est en gratitude. C'est une grâce. Ben oui, c'est vrai. C'est devenu une expérience que nous saisissons. C'est aussi comme si nous rentrions la nuit, je pense, dans l'intimité d'un spectacle qui ne nous concerne pas, nous autres humains. C'est-à-dire, on rentre dans une intimité, celle de la relation nocturne qu'a la chouette ou le chevreuil avec sa forêt, qui ne nous concerne pas. Et donc, là, il nous est donné de c'est comme regarder par le trou de la serrure, en fait. Voilà.
Est-ce qu'il faut avoir des connaissances en sciences naturelles, en botanique, en zoologie, pour bien apprécier à sa juste valeur le spectacle de la nature?
Alors, on a vu que des chercheurs en théorie de l'évolution ont fait une hypothèse de type naturaliste, hein, sur l'idée que le rapport s'était formé par adaptation et que c'est la savane qui nous enchante. On peut faire une hypothèse complètement opposée, qui serait culturaliste. C'est-à-dire dire, en fait, c'est vraiment la culture qui nous fait aimer la nature. C'est parce que nous avons vu des tableaux de Van Gogh, ou de Monet, mais pas seulement du grand art, des fonds d'écran, des cartes postales, des photos sur Instagram, des photos sur Facebook. C'est parce qu'en fait, des représentations de paysages tournent sans cesse autour de nous que nous avons certaines préférences et certaines émotions qu'on aurait en fait créées culturellement. Et donc, on irait en vacances, par exemple, ou en forêt, rechercher des choses qu'on connaît déjà par notre culture. Il y a toute une ligne de philosophes qui défendent cette hypothèse. Moi, il y en a un pour lequel j'ai une tendresse particulière. C'est pas l'hypothèse que je soutiendrai, in fine, mais il y en a un pour lequel j'ai une vraie tendresse qui s'appelle William Gilpin. Je peux peut-être en dire un mot rapide. Lui aussi, c'est un Anglais inconnu du XVIIIe siècle. Inconnu. Immensément connu en son temps parce que il a écrit le tout premier guide touristique. C'est le premier homme qui a écrit un livre, ce qui s'appelle Les Observations sur la rivière Wye. Donc moi, j'y suis retourné sur ses pas sur la rivière Wye. C'est en Angleterre, c'est aux confins du Pays de Galles, dans l'ouest de l'Angleterre. Les Observations sur la rivière Wye, c'est un livre où pour la première fois un homme se dit tiens, je vais écrire le livre pour que des gens refassent mon voyage. C'est-à-dire, je vous raconte pas un récit de voyage au bout du monde comme Bougainville, c'est pour que vous le refassiez. Donc allez voir cette forêt, mais celle-là vous pouvez vous en priver, etc.
C'est l'ancêtre du guide du routard.
Ah oui, mais alors, il est très philosophe aussi dans son approche des choses et il invente un concept qu'il appelle le picturesque.
C'est quoi ça?
Alors, je crois qu'il faut pas le traduire, il faut garder anglais. Picturesque, ça veut dire que pour lui, il y a des paysages qui sont picturesques, c'est ceux qu'il faut aller voir en fait, parce qu'ils sont dignes d'être représentés en peinture. Lui, il a vraiment, il est peintre amateur, il est fils d'un peintre amateur, son frère est peintre professionnel, peintre animalier, tout le monde peint dans la famille, et donc c'est un peintre obsessionnel. Il a d'ailleurs mis des aquatintes dans son guide, hein. Et en fait, il va chercher dans la nature ce qui aurait le mérite d'être peint. Et alors là où il m'enchante, c'est qu'il trouve que la nature, comme c'est un regard complètement culturel sur la nature, fait des vraies fautes de goût. Par exemple, un peu de vache, ça va, mais beaucoup de vaches, non, parce que beaucoup de blanc, c'est moche. Ou il va dire que, par exemple, il y a des arbres qui ne méritent pas de pousser seuls. Le chêne tout seul au milieu d'un champ est somptueux et magnifique, mais le hêtre ou le bouleau, c'est une catastrophe, il faut qu'il soit en bosquet. Ce genre de choses, c'est très drôle. En fait.
Comment expliquez-vous l'aura, le mystère qui entoure la beauté de la nature? C'est une question sans réponse. La rose est sans pourquoi, écrivait un mystique allemand du XVIIe siècle. La nature est également sans pourquoi?
Bah, merci Ali pour cette question, parce qu'en fait ça me permet de parler de l'hypothèse qui est ma faveur. Hein. On a vu qu'il y avait une piste évolutionniste, naturaliste, une piste culturelle pour comprendre notre rapport à la nature. Moi je pense en fait que c'est une expérience métaphysique qu'on va chercher dans la nature. C'est-à-dire que c'est ni simplement du culturel, ni simplement du biologique. On va chercher une expérience. Reprenons cette image du ciel étoilé, c'est peut-être la plus parlante. C'est quand même dingue, c'est-à-dire que vous êtes devant ce ciel étoilé, mais ça veut dire que l'univers a une sorte de pli en vous. C'est-à-dire que vous êtes une conscience éveillée, vous avez des yeux ouverts, vous vous dites « tiens, je suis devant le ciel étoilé ». C'est comme si l'univers en vous atteignait son stade du miroir, se contemplait lui-même à travers vous. Vous faites une expérience intensément métaphysique, vous êtes à proximité de ce qu'on pourrait appeler le mystère, de ce que les philosophes ont appelé l'être, de ce qu'on pourrait appeler l'essentiel, de l'énigme de la vie et de l'univers. En fait, j'emploie des quasi-synonymes. J'essaie de proposer un autre terme au prix d'une démonstration un peu longue que je vous épargne. Mais ce que j'essaie de pousser dans le livre, c'est l'idée qu'on va se mettre en contact non pas avec quelque chose qui serait au singulier, qui nous renverrait donc à une entité douée de volonté, ultimement à un dieu peut-être, mais qu'on est plutôt en contact avec les sources, avec quelque chose qui est pluriel en fait, que ce dont on fait l'expérience dans le paysage, c'est d'une pluralité. Nature, le mot même vient du latin nascor, ce qui veut dire naître, et le propre de la nature ou du paysage, c'est que tout ça naît sans cesse au devant de nous. La mer ses vagues, ses couleurs se renouvellent sans cesse, les nuages passent sans cesse, ça ne cesse de naître, et donc c'est pour ça ce mot source au pluriel, ça signifie qu'on fait l'expérience tout à fait métaphysique d'un contact avec un univers pluriel et qui se renouvelle sans cesse.
Allez, il est l'heure de retrouver une beauté naturelle, Guillemette Olivier.
Oh bah dites merci Ali. Alors je ne sais pas, Ali, si ça vous est déjà arrivé, ou à vous deux messieurs, alors vous appuyez mollement, sans but précis, pas d'envie particulière de regarder un film à la télé, et puis ras-le-bol de la énième émission où la question est d'être la meilleure chanteuse, le meilleur pâtissier, le meilleur plombier, le meilleur fabricant de théière, le meilleur. Et puis vous tombez sur une chaîne nature, en plein milieu d'un documentaire animalier. Alors il y a des guépards qui courent, comme si le plus grand cinéaste du monde les filmait au ralenti. Il y a des flamants roses, mais incroyablement roses. Il y a des soleils qui se couchent, il y a des poissons qui poissonnent. Ou alors sur un reportage sur les forêts avec des arbres, juste des arbres. Et l'hypnose commence. C'est fini, vous ne pouvez plus changer de chaîne. La nature vous a happé. Et même votre fils, qui normalement ne regarde que du foot, ou votre fille qui voulait vraiment savoir si Kevin allait quitter Joyce pour Melinda dans la saison 22, ne conteste même pas. Ils s'enfoncent dans le canapé, émus comme la première fois qu'ils ont soufflé sur un pissenlit. Non seulement le spectacle de la nature émeut, mais il balaie tout le reste. Et cela ne manque pas, il y a toujours quelqu'un pour dire « c'est dingue quand même la couleur des fleurs ». Oui chérie. Ou « on pourrait aller se promener en forêt ce week-end ? » Oui, chérie. Ou on pourrait louer un film sur la nature ? Bien entendu, chérie. Et là, on pense immédiatement au cinéma de Jacques Perrin. Ce dingue qui a réalisé des documentaires miraculeux, avec des trésors de patience pour nous faire contempler l'inatteignable pour nous, pauvres humains, pour nous plonger dans les océans, ou nous faire voler avec des oies cendrées du peuple migrateur. Alors tiens, on va louer Les Saisons. C'est disponible sur toutes les bonnes plateformes. Hein. Les Saisons. Les Saisons, dans une grande forêt européenne, où on peut mettre notre nez, soudainement, dans le terrier d'un renard, ou partager le repas d'un lynx. Des images d'une telle beauté que l'urgence du combat écologique saute vraiment aux yeux. En dehors du fait que la planète est en train de cramer, doucement mais sûrement, le message politique se résume tout bêtement à « faudrait tout de même être le pire des cons pour anéantir tant de beauté ». Avec Perrin, on peut aussi voyager plus loin. Alors jeudi 25 octobre à 20h40 sur Histoire, je répète, jeudi prochain à 20h40 sur la chaîne Histoire, est diffusé « L'Empire du milieu du Sud ». Et dans de merveilleux décors, tombaient les figurants de la mort. Pendant plus de 10 ans, Jacques Perrin et Éric Deroux ont collecté des images d'archives, mais incroyables, pour raconter le Laos, le Cambodge et le Vietnam. C'est la beauté de la nature et l'horreur de la nature humaine. Et ce documentaire exceptionnel, vous savez, en fait, il dit aussi quelque chose. Pourquoi la nature nous émeut ? Parce qu'elle n'a jamais fait de politique et n'a aucune idée, quelle chanceuse, de tous ces mots idéologiques qui finissent en isme.
Et on s'intéresse au spectacle de la nature qui nous émerveille en compagnie du journaliste et philosophe Alexandre Lacroix.
restez pas, arrête de faire ça. J'imaginais qu'on aurait pu se retrouver, mais on s'est perdu.
Et on vient d'écouter « Pourquoi tu cries » interprété par Joanne Papa Constantino.
Ah là là, mais la nature, mais moi je ne pourrais pas me passer de ça.
Grand bien vous fasse.
Pas de rendez-vous, pas de bouchon, pas de mail, pas de coup de fil, pas de klaxon, pas de lumière, partout, pas de bruit, pas de bar, pas de restaurant.
Sur France Inter.
Paris me manque. Hein, on rentre quand déjà?
Et on s'intéresse au spectacle de la nature qui nous émerveille en compagnie du journaliste et philosophe Alexandre Lacroix.
Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie, je vous assure, c'est vrai. Tiens, si je vous disais qu'il n'y a rien que j'adorais plus que les longues chevauchées solitaires dans les grands espaces verts. La communion intime avec la nature, l'extase des sens, un sentiment grisant de liberté, l'osmose quoi.
Un extrait de La classe américaine de Michel Hazanavicius. Alors Alexandre Lacroix, je rappelle que vous publiez Devant la beauté de la nature. Et j'aimerais qu'on mette nos cinq sens à l'épreuve de la beauté de cette nature. Alors le sens le plus évident, hein, c'est l'œil. Vous dites que c'est se trouver dans l'intimité du monde avec notre œil. Le regard, c'est aussi sensuel qu'une caresse, écrivez-vous.
Oui, alors c'est vrai que La question de l'œil est extrêmement importante parce que la compréhension que j'ai de ce que c'est que de voir dans mon expérience, c'est que c'est comme si c'était ouvert. C'est-à-dire que c'est là où si je touche un matériau, je sens que c'est bien ma main qui le touche, la paume résiste. Dans l'œil, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui résiste. C'est comme si le monde entrait en moi sans filtre. Et je me suis dit comme ça que c'était en contradiction, cette sensation que le monde entre en moi comme ça, mais sans qu'il y ait de barrière en fait, sans qu'il y ait de peau en fait. Je ne vois pas la peau à la surface de mon œil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de barrière, que le monde entre en moi, que c'est totalement fluide. Donc je suis vraiment dans l'intimité du monde par la vue. C'est pour ça que peut-être voir, c'est un des plus grands plaisirs de l'existence.
Et pourquoi voir un superbe reportage dans la savane africaine, filmé en 3D avec une mise en scène extraordinaire, n'équivaudra jamais, selon vous, le fait de voir le même paysage de ses propres yeux, de cette même savane africaine?
Voilà, alors je me suis aperçu qu'il existe une littérature scientifique sur l'œil, ça commence au début du 19e siècle, qui considère que c'est simplement une question d'input nerveux. Des gens qui vous disent donc, des biologistes, que c'est juste parce qu'on titille le nerf optique, et puis que l'image en fait serait entièrement composée par votre cerveau. Donc certains pensent que c'est juste une question de titillation. Moi je suis contre ça, donc j'ai une vision écologique de la vision. Et donc si vous avez une vision écologique de la vision, vous pensez qu'il s'agit pas simplement de titiller du nerf optique, que l'œil c'est vraiment un contact très intime avec un dehors. Et donc, regarder un écran, c'est pas pareil qu'être dans la forêt.
Vous avez rencontré des aveugles qui vous décrivent des paysages. Et quelle conclusion en avez-vous tiré cette rencontre avec beaucoup d'aveugles qui vous parlent avec une grande beauté des paysages qu'ils ont entre guillemets vus, ressentis
Oui, parce que ce que je voulais faire, c'était aller au-delà de la perception visuelle de la nature. On est dans une société de la vue, donc c'est ce qui domine. Mais je suis allé voir les aveugles en leur demandant à chaque fois, je suis allé voir une douzaine d'aveugles à peu près, en leur demandant à chaque fois, mais quels sont vos paysages préférés ? Il y a une distinction évidente entre les aveugles de naissance et les aveugles par accident, mais il y a des points sur lesquels ils se retrouvent tous. Ils aiment la pluie, parce que la pluie donne une sorte de contour sonore au monde. Ils aiment la mer. Ils aiment la mer parce qu'il y a saturation sensorielle pour eux, c'est-à-dire que là, non seulement il y a du son, les vagues, mais il y a aussi du goût, il y a l'air salé sur les lèvres, il y a le vent sur la peau, il y a... Alors, j'ai découvert aussi autre chose, c'est qu'ils ont des sensations assez précises au niveau des oreilles d'altitude. Donc il y a aussi un bonheur à se trouver dans la montagne. Ils aiment beaucoup jouer avec les chaleurs ou les chauds et froids. Il y a un aveugle africain qui dit que son plaisir pendant la saison chaude, c'est de rester sous un arbre longtemps. C'est comment on apprécie un paysage quand on est aveugle? Il reste sous un arbre isolé longtemps. Ensuite, il sort de l'ombre de l'arbre, il s'expose au soleil et il rentre dans l'ombre de l'arbre à nouveau. Et que c'est ce jeu avec le chaud et le froid qui lui permet d'éprouver le paysage. Et donc effectivement, avec eux, j'ai découvert à quel point, on le savait déjà, mais à quel point l'expérience de la nature est polysensorielle.
L'odorat, l'ouïe, le toucher,
goût même.
Le goût.
Ouais, bien sûr. Et nous sommes, de ce point de vue, devenus un peu infirmes.
Ah bon ?
Bah oui, parce que nous vivons en ville. En ville, par exemple, on apprend à boucher son nez. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous avez à respirer en ville ? Des pots d'échappement, la transpiration de vos collègues. Et non, je parle pas pour.
Merci.
Pour vous, Ali. Non, et des toilettes mal lavées. En fait, vous ne vivez pas dans votre nez. Donc, vous ne savez plus sentir la nature. Vous ne savez plus reconnaître différentes espèces d'arbres par l'olfaction.
Pourquoi avoir terminé votre livre sur une réflexion sur l'âge ? Vous avez 43 ans et vous écrivez « Après 40 ans, le temps qui reste à vivre se présente comme un paysage ouvert. » Et oui. Après cet âge, il existe, selon vous, une présence sur laquelle se reposer la nature.
Mmh. Non, il me semble qu'au milieu de la vie, disons 40 ans, vers 40 ans, il y a quelque chose qui change. Ce qui change, c'est que jusque-là, en grandissant, on a des modèles. On se sert de modèles un peu comme des étais, un peu comme d'un échafaudage. On essaye de se conformer à un modèle qu'on s'est peut-être construit tout seul, une certaine image de soi qu'on voudrait atteindre. Et puis, ça tombe. C'est-à-dire que vers 40 ans, on peut enfin devenir fou. Ou devenir soi-même, ce qui est plus ou moins la même chose. Il n'y a plus de modèle. On s'aventure donc dans une zone où la tâche est d'être et de se trouver. Et donc c'est ça l'idée d'un paysage ouvert. On entre dans un paysage ouvert. Le sens n'est pas donné auparavant par de grandes figures, qu'elles soient parentales ou autres, ou sociales. Et sur quoi s'appuyer dans cette nouvelle aventure? Je pense que l'un des supports très forts pour ne pas se perdre dans cette nouvelle aventure de la vie qui commence là, c'est effectivement d'entretenir l'émerveillement devant la beauté du monde, devant la beauté de la nature.
Et j'aimerais terminer avec un message de Carole qui nous dit « Dans la nature, je ressens une vraie appartenance à ce monde. J'ai le sentiment de faire partie d'un tout. J'ai l'impression d'être témoin de la beauté de la nature et ainsi de constater un vrai sens à ma présence sur Terre. » Voilà, une belle conclusion. Merci beaucoup Alexandre Lacroix. Je recommande vraiment ce bel ouvrage hein, « Devant la beauté de la nature ». C'est publié chez Alary Édition. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Dès lundi à 13h30, vous retrouverez avec plaisir la toute nouvelle émission de Mathieu Vidard, La Tête au Carré, que je suis impatient d'écouter. Pour ma part, je vous retrouve dès lundi en direct à 10h. Belle journée à l'écoute de France Inter.